Ben, on va parler de Montréal plus spécifiquement mm-hmm. maintenant. De quoi le territoire du Québec a-t-il besoin? Dans votre texte, vous dites que le grand problème de Montréal, c'est qu'après avoir cessé d'être la métropole canadienne, elle n'est pas pour autant devenue la métropole québécoise. Puis vous dites aussi que Montréal dérange depuis à peu près toujours. J'aimerais vous entendre sur ces points.
Oui. Ben, c'est assez fascinant de découvrir quand Jacques Cartier remonte le Saint-Laurent. Les Amérindiens qui sont à Québec font tout pour le dissuader de venir sur Montréal. Parce que déjà à l'époque, les groupes amérindiens avaient compris que Montréal avait une position géostratégique au cœur du continent qui était beaucoup plus avantageuse que Québec. Québec, c'est peut-être un contrôle de la porte d'entrée, mais quand on est à Montréal, via le Richelieu, via l'Outaouais, via le Saint-Laurent, on a accès notamment à la côte atlantique du côté de New York, et ensuite on a accès au cœur du continent dans la région des Grands Lacs et dans les territoires du Nord-Ouest. Donc déjà, on avait cette conscience que Montréal avait des avantages. Quand Montréal est fondé par Maisonneuve et Jeanne Mance, Montréal a une charte spéciale. Donc, Montréal échappe en partie au contrôle des autorités coloniales à Québec. Et ça, on le prend très mal à Québec. Et donc, c'est un deuxième épisode de cette difficulté
de rivalité
entre Montréal et le reste du Québec. Ça va se perpétuer dans toutes sortes de domaines. Par exemple, le mouvement patriote va être beaucoup plus présent, beaucoup plus affirmé dans la région de Montréal qu'il ne l'est dans la région de Québec. Il y aura des écoles aussi, par exemple en histoire, il y aura l'école de Montréal, l'école de Laval. En littérature, il y a aussi des écoles de Montréal et de Québec. Et on n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde dans ces écoles-là. On est dans des positions qui sont difficilement conciliables. Donc, on sent cette tension en permanence. Ce qui va arriver éventuellement, c'est que quand Montréal va connaître un développement de plus en plus marqué, c'est que le poids relatif en termes démographiques et économiques de Montréal sur le reste du Québec va s'accroître considérablement. Et aujourd'hui, c'est la moitié minimalement de la population du Québec qui vit dans la région métropolitaine. C'est plus de la moitié du produit intérieur brut qui est produit dans la région métropolitaine de Montréal. Donc, par rapport à l'État-nation ou par rapport à la collectivité territoriale dont Montréal pourrait être la métropole, il y a un surpoids qu'on trouve pas dans d'autres sociétés. Quand on va du côté de l'Angleterre, par exemple, quand on va du côté de la France, on est dans l'ordre d'à peu près 1 à 10, là. Entre 1 à 8 et 1 à 10. Ici, c'est 1 à 2. Donc, on voit bien là, que la métropole, elle dérange encore plus ici qu'elle ne peut déranger dans d'autres sociétés où déjà, on trouve que c'est un surpoids quand on est dans un ordre, par exemple, au plan démographique d'un à huit. Vous pouvez imaginer que quand c'est de 1 à 2, là, on parle même plus de surpoids. Là.
Et là, si elle avait été la capitale en plus, ça aurait été,
je pense, un grand bonheur pour Montréal, un grand malheur pour le reste du Québec.
Oui, c'est ça. Puis, Montréal, c'est une île. Ce qui veut dire que c'est à la fois un territoire terrestre et un territoire maritime autour de l'île. Et qui dit île dit eau, qui dit eau dit accès à l'eau, ici le fleuve. Quelles questions devrait-on se poser par rapport au fait que Montréal soit une île pour un avenir plus florissant pour la ville?
Ben, moi, je pense qu'il faut d'abord reconnaître que la métropole, elle a débordé l'île, elle a traversé les ponts depuis très longtemps.
Ouais.
Les premiers grands mouvements de suburbanisation, c'est dès les années 1940. La décennie 51-61 marque des évolutions de population du côté, par exemple, de Laval ou de la Rive-Sud qui sont étonnantes en termes de croissance démographique. Donc, on a déjà allègrement traversé les ponts. Et je pense que c'est la première chose à reconnaître. C'est une région métropolitaine qui n'est pas confiné à Montréal dans l'île, qui n'est pas confiné à Laval dans l'île, qui n'est pas confiné au grand noyau d'urbanisation autour de Longueuil sur la Rive-Sud, mais qui est beaucoup plus étendu que cela. On parle d'une région fonctionnelle au plan au plan métropolitain d'à peu près 6000 km². Donc ça, c'est déjà un premier élément. L'autre élément, c'est de comprendre que l'eau ne faisait pas partie de nos imaginaires dans le cœur de la métropole depuis longtemps, mais c'est pas unique à Montréal. Si vous allez sur le long du Richelieu, les villages, ils tournent le dos la plupart du temps à l'eau. Le Vieux-Québec, la place royale à Québec, tournait littéralement le dos au Saint-Laurent. L'eau était une ressource pour le transport et était un égout à ciel ouvert dans bien des cas et tout ça. Donc, on n'avait pas de relation comme on va développer, par exemple, à l'époque romantique avec l'eau bouillonnante, les rapides, les chutes, etc. Donc, on l'avait oublié, on l'avait occulté, ça faisait partie des décors d'arrière-scène. Là, évidemment, aujourd'hui, notre sensibilité romantique, pas romantique, mais notre sensibilité environnementale a fait que la ressource, elle a été redécouverte progressivement à compter des années 60-70, et là, on en veut.
Et aussi par les promoteurs.
Par les promoteurs. Et là, c'est ça qui est le problème, c'est-à-dire que l'accès était déjà difficile parce que les grands équipements portuaires, les autoroutes, les grands équipements industriels étaient déjà en mode d'appropriation et de verrouillage des plans d'eau. Et ce qui arrive maintenant, c'est que les grands promoteurs, évidemment, comme c'est un facteur de l'occasion intéressant, ils veulent aussi approprier. Et donc, il y a des conflits d'appropriation. On voit bien qu'on est en train actuellement de créer toutes sortes d'opportunités, des fenêtres. On récupère des rives qui avaient été abandonnées à l'industrie et tout ça. Mais c'est un travail de longue haleine, là, parce que c'est extrêmement lourd comme processus. Ça peut être parfois très coûteux. Mais on voit des expériences, entre autres, à Québec, la promenade Samuel de Champlain. On voit ici le canal de la Chine qui a été réapproprié. Même sur la rive sud, où c'est pas facile, par exemple, à Longueuil, on a réussi à faire une promenade. Si vous allez à Rimouski, c'est la même chose. Il y avait une autoroute construite entre le centre-ville et le fleuve, l'estuaire, et on a réussi à faire une promenade. C'est pas l'idéal, mais on voit bien là, qu'il y a une volonté de réapproprier l'eau dans nos milieux urbains, dans nos milieux urbanisés.
À Montréal, dans les dessous du printemps étudiant, vous présentez une liste de réalisations exemplaires, notamment le Vieux-Port, grâce à une consultation participation qui s'est étendue sur presque deux décennies. Est-ce que c'est beaucoup quand même?
C'est énorme, mais c'est considéré comme un exemple. Parmi l'ensemble des Vieux-Ports, c'est un exemple qui est vraiment unique de ce point de vue-là, de gens qui ont refusé que ça devienne essentiellement un grand projet immobilier, qui voulaient un espace public avec une prise en charge de certaines dimensions patrimoniales. C'est actuellement...
Mais on n'a pas encore tout à fait l'accès au fleuve.
Non, ça reste à faire, mais au moins, c'est un espace collectif. C'est-à-dire que si on veut aller plus loin, nous sommes en contrôle de cet espace-là présentement. Là.
Vous parlez aussi du quartier international. Mais le quartier des spectacles dans lequel nous sommes n'est pas dans la liste. Et vous avez une petite note en bas de page un peu plus loin qui vous parlez justement du quartier des spectacles. Qu'est-ce que vous reprochez ou qu'est-ce que vous pensez du quartier des spectacles?
Pour moi, c'est moins réussi que le quartier international. D'une part, parce que il y a une trop forte emprise, à mon sens, des producteurs de spectacles. C'est-à-dire que c'est un espace public qui est lourdement programmé à des fins de spectacles à grand déploiement, et ça a eu un impact sur la nature des aménagements, sur les parties d'aménagement qui ont été prises. Ça, j'ai quelques réserves là-dessus. J'ai aussi quelques réserves sur la capacité de changer la donne de manière radicale sur l'ensemble du pourtour de la Place des Arts. Il y a des emplacements qui vont être appropriés pendant les moments de grands spectacles parce qu'on va programmer, on va organiser la venue des gens, mais je pense qu'il y a certains des secteurs qui ne seront pas véritablement très fréquentés sur l'ensemble du pourtour. Quand on va à l'arrière complètement, bon, les balançoires, c'est très sympathique, mais c'est quand même pas une affluence
considérable.
En termes de temps. C'est très limité. C'est la même chose de ce côté-ci de la Place des Arts, là, où je pense que ça va être beaucoup moins spontané comme appropriation. Donc, ça fait partie des réserves. Mais il reste pour moi qu'il y a une requalification qui était importante à faire, qu'on a réussi à faire. Le piéton est davantage en position de force qu'il ne l'était auparavant. L'automobile avait accaparé à peu près tout l'espace. Donc ça, il y a eu des gains assez nets de ce point de vue-là.
Mais vous dites que donc c'est une espèce d'industrie culturelle qui s'est appropriée le territoire. Le quartier international, on pourrait dire la même chose, que c'est en fait le commerce. Et donc,
oui, mais les espaces publics comme la place Grippel, c'est une place publique.
D'accord.
C'est très clair, c'est une place publique. Elle n'est pas vraiment programmée. Évidemment, la joute occupe une place importante, ça mobilise beaucoup d'espace, mais c'est véritablement une place publique. C'est pour moi une grosse différence avec le quartier des spectacles, dont le caractère public est amoindri par l'emprise qu'ont les grands promoteurs sur l'espace.
Donc, la fameuse place des arts là-dedans... Elle patauge, elle est entourée, elle évolue, mais...
Oui, mais en même temps...
On a déplacé le centre névralgique de...
En partie, mais il faut comprendre que la place des arts, c'est-à-dire l'espace collectif au cœur des équipements, c'est une place qui pose des problèmes, là. Entre autres à cause de la dénivellation qui est très importante entre le sud et le nord. Nord. C'est pas un espace qu'on traverse facilement.
Mais les gens s'assoient quand même.
On s'assoit. Ouais. C'est un espace justement où on vient s'installer. Mais c'est pas un espace, par exemple, comme les grands squares, le square Dominion, où les gens l'approprient, mais les gens peuvent le traverser dans toutes les directions pour aller d'un point A au point B. Le cœur de la Place des Arts n'est pas un espace qu'on traverse allègrement. C'est un espace qui est difficile à lire au surplus. On a, par exemple, une ouverture sur le Mont-Royal qui est assez spectaculaire, qui est très peu connue, parce qu'il faut vraiment entrer, il faut avoir la curiosité de pénétrer dans l'espace pour découvrir ça. Mmh. Donc, elle a un certain nombre de contraintes qui étaient là avant même qu'on crée le quartier des spectacles et qui rend difficile justement la complémentarité entre la partie interne de l'espace public et la partie plutôt périmétrique.